On va présenter donc des bandes dessinées qui font partie de la rentrée littéraire de septembre. En fait, ces ouvrages, pour raconter un petit peu comment on fonctionne à la bibliothèque, nous sommes un groupe d'acquéreurs BD donc sur tout le réseau des bibliothèques de Tours. Et donc, trois fois par an, on a un libraire fort sympathique, Olivier de BDLire, qui vient nous présenter une trentaine de BD. Alors, il y en a qu'on a demandé à voir parce qu'on a lu des critiques et ça nous intéresse de les avoir en main. Et puis d'autres, c'est vraiment leur choix. Donc, ils nous amènent des bandes dessinées et puis ils les commentent. Et voilà, c'est l'occasion pour nous aussi de belles découvertes, de confirmations pour celles qu'on connaît et qu'on avait envie de voir. Et puis des fois, de belles découvertes. Et là, il y a un petit peu, dans ce qu'on va vous présenter avec Léana, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, bah je te laisse la parole, Léana, si tu veux commencer.
Oui, alors je vais commencer par Radium Girls de Si chez Glénat. C'est une BD de la collection, toute nouvelle collection Karma, donc, dont le but est de mettre en lumière la vie d'une ou plusieurs personnes ayant été un peu oubliées de l'histoire avec un grand H et dont le destin a pourtant eu une portée collective et donc un impact important. Et Radium Girls ouvre ainsi cette collection et raconte un fait effectivement très peu connu et qui méritait vraiment d'être mis en lumière. C'est l'histoire tragique de ces femmes, ces ouvrières qui, dans les années 20, ont eu et vu leur vie sacrifiée au profit du rendement, à cause du radium, donc en travaillant au prix de leur santé et en l'apprenant malheureusement beaucoup trop tard. En effet, dans ces années-là, le radium est perçu comme l'élément miracle et une entreprise américaine l'utilise notamment dans sa peinture phosphorescente afin que les chiffres des cadrans des montres qu'elle confectionne brillent dans le noir. Et ces travailleuses, qui sont représentées donc par un groupe principal de 6 femmes dans l'œuvre, très heureuses d'avoir un emploi par ailleurs, ces 6 jeunes femmes sont ainsi chargées de peindre les chiffres des cadrans des montres avec la technique dite du marquage aux lèvres, se résumant en 3 étapes, lip, dip, paint. Alors, explication, lip, elles lissent le pinceau avec leurs lèvres, on voit déjà, malheureusement, on imagine déjà comment ça va finir. Dip, elles prennent la peinture au radium, et paint, elles appliquent la peinture sur les chiffres. Et elles n'ont donc aucune idée des risques qu'elles encourent. Leur chef direct leur dit même à un moment que c'est sans danger, alors que les patrons, les grands de cette entreprise, entre guillemets, sont mis au courant des effets terriblement néfastes du radium sur la santé. C'est également montré très subtilement dans l'œuvre. Mais le profit compte malheureusement plus que tout, ce qui peut faire écho encore malheureusement aujourd'hui. Et on va donc voir ces jeunes ouvrières déchanter au fur et à mesure que les effets du radium apparaissent. On passe ainsi d'une joyeuse insouciance à une terrible tragédie. Mais on voit aussi leur lutte pour obtenir réparation pour les préjudices subis. Lutte qui va finir par porter ses fruits. Et donc c'est vraiment une très belle BD où on se retrouve vraiment plongé dans l'atmosphère des années 20, j'ai trouvé, avec un très beau travail de l'autrice illustratrice, tant dans le style que dans les recherches menées en amont, on le devine très bien à travers l'œuvre, ouais. À travers le graphisme. Et il y a vraiment de très belles planches, notamment des pleines pages, vraiment très, très belles et très touchantes. Le ton aussi, le jeu des couleurs et ce contraste entre le vert radium et les tonalités de violet, ça donne vraiment un très bel effet. Et le dessin est fait au crayon de couleur et tout cela donne vraiment un très très beau rendu.
C'est original aussi.
Ouais, très original, vraiment très joli. Et c'est donc, je trouve, une BD qui a vraiment toute son importance et qui a beaucoup plu à tous les collègues l'ayant lu. Et qui mérite d'être connue, lue et relue. Et donc, petit plus, comme on le disait hors micro, la première couverture de la BD brille dans le noir. Et donc, le visage de ces femmes devient phosphorescent. Et c'est vraiment impressionnant et ça fait en plus écho à leur premier surnom qui leur a été donné, les Ghost Girls. Et en plus, on voit aussi dans le noir, du coup, la face cachée du radium et les effets que ça va avoir, les effets atroces que ça va avoir sur leur santé. Voilà.
C'est surtout aussi la lutte, en fait, hein, qu'elles ont menée. Bon, qu'elles n'ont pas vraiment gagné, mais comme insiste l'auteur à la fin, finalement, il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui a réussi à gagner son procès contre... l'entreprise
c'est
qui
ça, l'employait, c'est que...
donc quelque part, même si pour elles ont eu un dédommagement, je crois, il n'y a pas eu vraiment une décision de justice, ça a quand même favorisé, enfin ça a surtout fait
pour prendre
prise de conscience des risques des personnes au
tout
travail,
fait,
et ça a fait avancer la législation.
Ouais.
Donc il y a un côté aussi un peu militant.
Oui, tout à fait.
Donc très belle BD qui trouvera, c'est sûr, sa place sur nos rayonnages. Prochainement.
Oui.
Je continue ?
Oui, vas-y.
Alors, on est dans les belles bandes dessinées. Donc, je vais continuer avec une très belle bande dessinée. Donc, Luca Harari, La dernière rose de l'été, donc parue chez Sarbacane. Donc, Sarbacane propose des très, très beaux ouvrages avec un dos toilé dans les tons roses. Donc, c'est la deuxième bande dessinée de Luca Harari. Il a écrit précédemment L'aimant. Que nous avons à la Bibliothèque Centrale. Donc, très belle réalisation pour un album qui le mérite vraiment. Donc, Luca Harari, il a fait des études d'architecture et ça se sent dans le graphisme et notamment, évidemment, la représentation des maisons. Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Léo. Léo, c'est un écrivain en devenir, on va dire. Il rencontre son cousin vraiment par hasard dans une laverie, donc on suppose qu'il est à Paris. Et donc, le cousin lui propose de garder sa maison pendant les vacances. Lui, il n'est pas là, il y a des travaux. Et donc, il propose à Léo de passer les vacances dans la maison pour surveiller les travaux. Et donc, Léo accepte la proposition. Donc, il arrive dans... Alors, on voit prendre le bateau, on ne sait pas trop où c'est. On peut penser éventuellement au sud de la France, mais on ne sait pas, ce n'est pas du tout situé. Et donc, il arrive dans cette maison et puis il va découvrir un petit peu les environs, les habitants. On lui parle également, enfin, il entend parler de disparitions inquiétantes, de jeunes hommes qui auraient disparu, des adolescents qui auraient disparu. Et puis, il y a une atmosphère assez spéciale dans cet endroit. Il va aussi faire la connaissance des voisins. Plus particulièrement de la voisine qui s'appelle Rose, hein, qui habite une très très belle maison qui est donc juste à côté de la maison de son cousin. Très belle maison, très graphique, qui fait penser aux grandes maisons de Wright, Lloyd Wright. Alors évidemment, je ne vais pas trouver, mais bon, voilà, très très belle, croyez-moi. Et donc, cette jeune fille est un peu mystérieuse, elle aussi. Donc, c'est un climat un peu pesant, ces disparitions. Il y a un commissaire qui est dépêché sur place, qui va venir enquêter. Et puis, lui, de sa fenêtre, il observe les comportements de cette jeune fille, de son groupe d'amis. Et donc, au fur et à mesure, la tension est palpable. Le mystère s'épaissit, on va découvrir au fur et à mesure ce qui s'est vraiment passé. Au niveau de l'illustration, c'est vraiment très très beau. Ça fait un peu rétro, ça fait penser un peu au dessin de Loustal. Le découpage est vraiment pareil, très audacieux. Il y a plein de choses, de petites trouvailles graphiques qui ont fait vraiment une très très belle BD, très belle réalisation. Donc voilà, et puis il y a un mystère, il y a vraiment un suspense dans cette bande dessinée. On se demande vraiment qui est cette jeune fille, les disparitions, etc. Donc Léo va se retrouver un peu malgré lui au cœur de l'enquête. Donc voilà, une très très belle bande dessinée pour un jeune auteur. Je crois qu'il a 30 ans et donc c'est ta deuxième bande dessinée. Donc voilà, la dernière rose de l'été aux éditions Sarbacane qui va effectivement elle aussi sans doute trouver sa place dans nos collections à la bibliothèque.
Oui, c'est vraiment un très bel ouvrage.
Tu as bien aimé toi aussi, hein, Léana.
Ouais.
Puis il y a vraiment ce mystère, il y a vraiment une tension, il fait très chaud. Il y a un côté un peu hitchcockien par moment.
Oui,
enfin,
oui,
voilà,
oui.
Des personnages
un peu... On est
vraiment
plongé dans une atmosphère hitchcockienne,
ouais,
tu as raison.
Ouais. Et puis ce côté, ces couleurs qui sont vraiment très vives. En même temps, il y a un grain à l'intérieur, donc il y a un côté un peu rétro.
Alors, un peu moins impressionnante au niveau du dessin, mais très sympathique. C'est donc Americana de Luke Haley. L'auteur-dessinateur jeune irlandais raconte sa propre expérience du PCT, le Pacific Crest Trail, sentier de randonnée mythique des États-Unis, allant de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, donc 4280 km où l'on passe du désert à la glace. C'est donc un trek réputé pour sa grande difficulté, alors que ce jeune homme n'est pas du tout un grand sportif au départ, comme il nous le présente.
Oui, c'est un auteur de bande dessinée.
Ah oui, c'est ça, plutôt rondouillé. Hein, d'ailleurs, il y a une photo marquant le début du périple et une photo marquant la fin. Et c'est...
On voit qu'il y a une transformation notable.
Une transformation, déjà en tout cas physique. Ouais. Mais voilà, l'Amérique, lui, elle l'a toujours obsédé et il va donc décider de se lancer dans cette incroyable randonnée. Et ça va être l'occasion pour lui de se confronter à lui-même, à ce pays qui l'obsède depuis longtemps.
Là, il y a une vraie obsession. Il est vraiment obsédé par les États-Unis.
Hein. C'est ça. Déjà, quand il était jeune, donc il a voulu absolument faire ses années d'histoire, d'art appliqué là-bas. Et à chaque fois, il voulait y revenir. Vraiment, il idéalisait cette Amérique, et donc là ça va peut-être un peu aussi le faire quelque peu déchanter, mais lui faire découvrir la réalité de ce pays qu'il idéalisait peut-être, qu'il fantasmait peut-être un peu trop. Donc oui, aventure humaine à travers les différents personnages qu'il rencontre, parce qu'effectivement il va aller dans des coins très reculés et rencontrer des personnes pas forcément les Américains les plus ouverts au monde, et à côté de ça des jeunes de toutes nationalités qui ont un
bel esprit d'entraide, aussi
qui vont s'entraider tout au long de cette aventure, et c'est vraiment très très sympathique, très touchant. C'est vraiment une très belle aventure dans laquelle il nous entraîne à ses côtés, et à première vue l'œuvre peut paraître assez imposante.
C'est un peu épais.
Ouais. Mais elle se lit en fait très facilement. On est vraiment embarqué dans ce trek qui... Oui, c'est ça. On a vraiment envie de savoir la suite, de découvrir la suite. Et donc, pas du tout de clichés. Et donc, pareil, on est plusieurs collègues à l'avoir lu et à avoir beaucoup aimé. Et en plus, il a de l'humour, je pense...
Beaucoup d'autodérision aussi. Hein. Il se moque beaucoup de lui, des aventures qui lui arrivent.
Ah oui, c'est...
Il rencontre des bêtes sauvages. Voilà, il y a toutes ses peurs aussi.
Ça pourrait être parfois effrayant, parfois... parfois, on a un peu pitié aussi, mais c'est toujours fait de manière très légère et humoristique. Je pense notamment à ce passage où il teste pour la première fois son sursac orange pour le duvet, pour se protéger encore plus de l'humidité. Et il se dessine à ce moment-là tout recroquevillé dans sa tente, dans son sursac orange.
D'ailleurs, ça devient son surnom. Il s'appelle Sursac. En fait, ils se croisent, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, il y en a qui continuent. À un moment donné, il est prêt à abandonner, même. Hein, il arrête quand une semaine avant de reprendre. Et donc, ils ont tous des surnoms sur la piste. Des fois, ils se croisent, il y en a qui s'arrêtent. Enfin bref, ils se croisent énormément. Et ils ont tous des surnoms. Donc, c'est assez drôle de voir des gens qui, au départ, allaient très vite, finalement. Et puis, lui qui prend goût, qui prend plaisir au départ, qui se demande un peu ce qu'il fait là. Et puis, il est sûr de sa place et il profite de l'instant. C'est aussi toute une quête. La marche, ça permet de réfléchir, rencontre des gens, ça lui permet aussi de réfléchir sur sa famille. Enfin, il y a toute une,
tout un
cheminement, on va dire, intérieur qui peut permettre, justement, la marche, c'est ça aussi. C'est aussi le questionnement, cheminement, on réfléchit, on prend le temps.
Oui, on sent vraiment.
Donc, il y a une très belle aventure intérieure aussi.
Oui, c'est ça.
Et qui, d'ailleurs, je trouve que ça se ressent. Hein, sur la fin, on voit que finalement, la route était longue, mais ce n'est pas vraiment ce qui a compté.
Oui,
c'est tout ce qui s'est passé autour, finalement.
Ouais.
C'est une quête, un peu.
Oui, c'est ça. Une très belle quête d'identité. Dans laquelle on est emporté. Donc, Americana de Luke Haley chez Casterman.
Voilà, puis, il y a un graphisme dans tout ton orange et bleu.
Oui,
tout le temps.
Donc,
il y a un côté. assez minimaliste, mais en même temps un peu fouillé quand même. Enfin ouais, non, c'est vraiment extrêmement plaisant à lire.
Oui, tout à fait.
Alors, pour ma part, j'ai bien aimé également dans notre office BD un petit livre couleur craft, on va dire, en noir et blanc, d'un illustrateur qui s'appelle David Snug, donc c'est un pseudo, qui s'appelle Dépôt de bilan de compétences, aux éditions Nada. Donc, les éditions Nada, c'est une ligne éditoriale bien trempée. Il s'intéresse à l'émancipation, marginalité, aux contre-cultures. Donc là, on est sur la réflexion sur le travail. Donc, ça retrace la vie, on va dire la jeunesse et l'adolescence et la jeune adulte, on va dire, de David Snug. Parce qu'en fait, le principe, c'est que le David Snug âgé, enfin plus âgé, on va dire, qui est donc l'auteur actuellement, rencontre son alter ego, mais plus jeune. Donc, on a ces planches où il y a le David Snug, on va dire plus âgé, et le David Snug ado, qui se rencontrent et qui vont converser ensemble. Donc, ça, c'est assez drôle. Et puis, il y a toujours la petite note humoristique.
Ah oui.
À chaque fois, en fait, les deux se retrouvent dans un endroit. Alors, ça peut être dans une prairie, ça peut être... Et le jeune dit au vieux, mais pourquoi on est là ? Il fait, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma BD. Voilà. Donc, c'est un peu le leitmotiv, on va dire, de la bande dessinée. Et donc, en fait, David Snug voulait travailler sur la notion de travail. Dessiner sur la notion de travail. Et donc, il va reprendre tout son parcours et il va expliquer un peu comment il a commencé dans la vie. Donc, il a essayé de faire de la BD, c'était pas simple. Donc, évidemment, il a trouvé des petits boulots. Donc, il va aussi mettre l'accent sur l'absurdité de certains travails, notamment le travail à l'usine où on demande à la personne juste d'être des bras, mais surtout pas une tête. Donc, par exemple, alors, il y a des exemples très croustillants quand il est dans une usine et il doit aider le fromage, une usine à camembert, il doit aider le fromage à faire le virage. Voilà, donc c'est très intéressant. Travail à la chaîne chez Renault. Il est viré parce qu'il n'a pas le droit d'aller faire pipi à une autre heure que l'heure dite. Enfin voilà, il est très là-dedans. D'ailleurs, la couverture avec la roue, hein, ça fait penser au temps moderne de Chaplin, l'absurdité du travail à la chaîne. Voilà.
Il le dit d'ailleurs qu'à la fin de la journée, à force de visser des boulons, il est vraiment comme dans les temps modernes.
Il y a le côté très dur du travail et en même temps le côté complètement absurde, loufoque de certaines situations. Donc on rigole beaucoup, c'est une BD vraiment très très drôle. Oui. Et puis après, donc, il passe toute une période à faire des petits boulots. Alors après, pareil, il y a l'épisode quand il va à la NPE de l'époque où on ne lui trouve pas vraiment de travail. On essaye de lui apprendre à faire un CV. Enfin voilà, toutes ces époques-là. Et puis à la fin, il va devenir animateur dans une MJC. Donc, il y a aussi tout le côté très ironique de la MJC où on veut apprendre aux personnes à utiliser l'ordinateur pour faire un CV. Puis finalement, ils ont juste envie de jouer aux jeux vidéo. Donc, il y a le côté aussi... il tacle un petit peu le côté action socioculturelle où on essaye d'apporter aux gens. Et bon, finalement, ce n'est pas vraiment réussi tout ça. Donc, c'est très drôle, c'est très bien vu, très humoristique. Et à la fin, l'ouvrage se termine par une postface, on va dire un tout petit essai de Julien Bordier qui, en fait, lui aussi travaille sur la notion du travail. Et donc, il va expliquer qu'en fait, le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, actuellement, c'est une construction en fait, de société et que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, c'est très intéressant parce que ça clôt bien cette idée un peu, d'absurdité et de violence en fait, de certains de ces métiers qu'il a on va dire, un peu touché du doigt. Voilà, donc c'est très...
Oui.
Oui, oui, oui. Il est vraiment... Et puis là, pareil, dépôt de bilan de compétences. On est vraiment sur l'ironie aussi, l'humour un peu grinçant, humour noir même. Donc vraiment une très bonne bande dessinée. On rigole beaucoup. Ça fait vraiment réfléchir sur le monde du travail. Et puis un graphisme tout en rondeur, en même temps avec des hachures. Enfin, c'est vraiment... je trouve que c'est du bel ouvrage aussi. Hein. On est vraiment... Voilà. Puis le côté un peu... Je regarde par-dessus mon épaule, quoi. J'essaye de voir un peu l'évolution. Et, non, vraiment, Donc pareil, j'espère que celui-là aussi trouvera sa place sur les étagères, parce qu'on n'a pas encore décidé encore la commission, c'est vendredi prochain. Donc voilà, on lit, on discute, on essaye de choisir et après on a des petits coups de cœur comme ça, donc on se dit bon. Voilà. Mais après oui. C'est collectif, hein, les achats c'est vraiment quelque chose de collectif.
Celles-là, elles ont vraiment quand même été appréciées par un bon nombre de oui. collègues, donc je pense que...
Et honnêtement, autant la dernière rose de l'été, c'est vraiment quelque chose qui a eu une énorme couverture presse. Voilà, d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une dédicace organisée avec Lucas Harari le 6 novembre. De 15h, à partir de 15h, après il faut contacter Bédélire pour le lieu qui est encore incertain, donc vraiment très bonne couverture presse et méritée, hein, plein d'articles élogieux sur la dernière rose de l'été. Autant d'hypo de bilan de compétences, honnêtement je ne l'avais pas du tout repéré, donc c'est aussi le rôle des libraires de nous faire connaître comme ça des maisons d'édition peut-être moins connues, des artistes un petit peu moins... qui ont pignon sur rue, on va dire. Et donc, voilà, c'est tout l'intérêt, justement, de ce travail avec la librairie Bédélire.
Donc, ça veut dire qu'ils vous prêtent un lot
C'est ça, voilà. Donc, comme je disais au début, soit c'est des choses qu'on a repérées, on leur demande, soit c'est vraiment leur choix personnel par rapport à l'actualité éditoriale, en fait. Ils vont nous fournir des ouvrages. Et souvent... Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas repérées et c'est vraiment des bonnes surprises.
Bah donc, si on a un peu de temps encore, la dernière, Rita Sauvée des Eaux, de Sophie Legoubin-Copeil au scénario et Alice Cherbin au dessin, aux éditions Delcourt. C'est vraiment une très belle découverte. Au départ, avec des collègues, on n'était pas...
On
était un peu réticents au niveau du graphisme et en fait une fois qu'on est embarqué dans l'histoire, on est embarqué dans le dessin aussi et finalement en fait ça colle assez bien aussi avec l'histoire qui est racontée. Donc la scénariste Sophie Legoubin-Copeil nous raconte en fait comment encore toute jeune elle perd son père lors d'un voyage en Inde alors que ce dernier tente et réussit à sauver une jeune mariée indienne de la noyade, mais au prix de sa vie à lui. Elle nous présente ainsi ses recherches pour retrouver cette dame des années après, comment ensuite elle la retrouve et commence à nouer une très belle et forte relation avec elle. Elle évoque aussi les souvenirs qu'elle a de ce terrible jour, malheureusement, et ce qui va en découler. Mais c'est aussi surtout... peut-être une très belle déclaration d'amour qu'elle fait à l'Inde et à ses proches. Et c'est vraiment une très belle manière de découvrir ce pays si, si particulier. J'ai beaucoup aimé le travail des couleurs qui, je trouve, illumine par petites touches le dessin. Et ça fait un peu comme à l'image de cette histoire qui apporte l'espoir, la vie après la mort... et la tragédie alors qu'on ne l'attendait plus. Et c'est vraiment une histoire très, très touchante, très émouvante, sans être plombante, justement. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus, l'œuvre est ponctuée de belles citations qui invitent à méditer un instant, puis à se replonger dans cette histoire incroyable et vraie. Et je voulais finir par la lecture de la quatrième de couverture. Rita Chaitanya Rimki, c'est son nom. Celui qui transforme mon histoire. Trois mots poétiques, guerriers mais chantants, posés sur l'avenir, à rattacher au passé. Est-ce que ça montre vraiment ce travail qu'elle va faire pour aller de l'avant ? Tout en, c'est ça, en se rattachant à cette histoire familiale que lui demande sa fille, en fait, une fois qu'elle rentre dans l'adolescence. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque
pas,
chose.
Je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'il y a une autre collègue aussi qui aimait beaucoup.
Oui, on est trois à avoir vraiment eu un énorme coup de cœur. En plus, il y a un petit glossaire à la fin avec de très jolis dessins. Et pour expliquer donc un petit peu le vocabulaire, certains termes spécifiques à la culture indienne. Et donc ça, c'est les remerciements aussi. Que les remerciements sont très, très beaux. Et voilà le mini glossaire avec... Illustré, donc voilà, c'est ça. l'illustration, donc qui montre les tenues traditionnelles, le mantika, le sindoor, c'est... Oui, vraiment, c'est... on a des photos aussi
des photos,
de sa famille, de ses amis. C'est vraiment un très, très bel ouvrage, très belle découverte, oui. Voilà.